Collège public CADES, bonjour.
La leçon d'aujourd'hui, parabole de l'herbe, de l'épi et du grain.
Donc je disais, cette session s'appelle un fondement solide. C'est important pour nous de pouvoir commencer avec quelque chose de solide, puisqu'on veut bâtir quelque chose, puisque le Seigneur veut bâtir quelque chose. Et c'était important donc de commencer avec ce qui est de plus solide, c'est-à-dire la parole de Dieu elle-même. Donc, nous allons lire Marc à partir du chapitre 4 et le verset 26. Il dit encore, il s'agit de Jésus, Jésus qui donne une parabole. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Jésus lui-même est en train de donner une parabole et d'expliquer les choses. Donc c'est important de savoir exactement ce qu'il veut dire. Ce verset est très simple. C'est le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui jette sa semence en terre. Le principe d'une parabole, c'est de faire une ressemblance, quelque chose qui nous permet de comprendre. Vous savez qu'il est difficile, d'expliquer les choses spirituelles, puisque ce sont des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Et Paul lui-même, rappelez-vous, a dit « Moi, je connais un homme qui est parti, qui est monté au troisième ciel, et il a vu des choses qu'il n'est même pas permis à un homme de dire. » C'est des choses qu'on ne peut pas forcément exprimer. Et Jésus voulait parler du royaume de Dieu, voulait faire comprendre à son peuple et au monde entier qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Et donc, il va utiliser le principe des paraboles pour pouvoir faire simplement une comparaison, quelque chose que l'on connaît, en disant c'est la même chose que cette chose-là que vous ne connaissez pas. La chose dont je veux vous parler là, c'est la même chose que cette chose que vous connaissez. Donc quand Jésus va parler, un homme jette de la semence en terre, bien évidemment il est en train de vouloir faire un cours d'agriculture, hein, d'accord ? Il veut nous faire comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. Et si vous regardez au verset 14, un peu plus haut, Jésus a donné plusieurs paraboles ce jour-là, et donc là on va parler de celle qu'on va lire, la croissance de la semence. Mais juste avant, il parlait du semeur et des terrains. Et le verset 14 nous explique qu'est-ce que c'est que ce semeur et ces terrains, puisqu'il dit « Le semeur sème quoi ? Sème la parole. » Quand Jésus utilise ses paraboles et va parler donc d'un homme qui jette de la semence en terre, quand il parle de semence, il parle de la parole. Et il y a un point intéressant à noter, c'est que Jésus a voulu utiliser pour les gens de son époque, quelque chose que les gens pouvaient comprendre. Mais non seulement c'était quelque chose que les gens pouvaient comprendre, mais surtout, il est en train de parler d'une loi naturelle qu'on ne peut pas outrepasser. Supposez que Jésus veuille parler d'une croissance, et que Jésus dit, voilà, c'est comme quand vous allez à l'école, vous rentrez au collège, vous rentrez en sixième, l'année d'après, vous serez en cinquième, puis en quatrième, puis en troisième. C'est une manière d'expliquer qu'il y a une croissance. Il aurait pu utiliser un système humain, mais Jésus a préféré utiliser un système naturel créé par Dieu lui-même. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que n'importe quel système humain, on peut en fait passer outre, on peut le tricher, on peut gruger ce système-là. C'est facile, facile entre guillemets, mais on a même un verbe pour ça s'appelle vachoter. C'est-à-dire, il y a un examen qui se passe. Et la veille au soir, je n'ai rien fait toute l'année, je vais bachoter à fond, je vais apprendre toutes mes notes, toutes les dates, etc. J'arrive et je peux réussir, pourquoi pas, mon examen. Mais je n'ai pas réussi ce pourquoi l'examen a été fait. Je me suis servi du système, j'ai triché sur le système, j'ai passé outre. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est la comparaison avec le royaume de Dieu. Je vous amène un système qui fonctionne d'une telle manière que c'est comme ça que ça fonctionne, on ne peut pas passer outre. Ne cherchez pas de raccourcis, ne cherchez pas de passe-droit, ne cherchez pas d'être avantagé d'une manière ou d'une autre. Vous savez qu'on peut très bien aller voir un directeur d'école et puis négocier avec lui, et hop, il nous fait passer alors qu'on devait redoubler. Ça arrive des fois. Mais en ce qui concerne les lois de la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une loi qui doit être respectée. Et Le but vraiment de cette session, l'objectif de cette session, c'est de nous faire saisir l'importance, la vérité et la valeur de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment capital. Si à la fin de cette session, on a compris ça, on a gagné. Ce que Jésus est en train de dire aussi, quand il dit « Il en est du royaume comme quand un homme jette de la semence en terre » et donc on traduit « comme quand un homme jette la parole », comme quand il s'agit de la parole, Jésus est en train de dire « Le monde spirituel, le royaume, fonctionne par la parole. » Le fonctionnement général du royaume de Dieu se passe au travers de la parole. Genèse 1:3, c'est le tout début. Dieu dit que la lumière soit. C'est pas Dieu fabrique la lumière. C'est Dieu dit, Dieu parle. C'est comme ça que fonctionne le monde spirituel, par la parole. D'ailleurs, vous savez, et on va le lire rapidement, Genèse 1, à partir du verset 11. Et vous savez, quand vous lisez l'Épître aux Romains, que quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé de telle sorte que les hommes peuvent voir Dieu au travers de sa création. Il a mis sa propre empreinte, Dieu a mis sa propre empreinte dans la création. La manière dont Dieu a créé les choses correspond à qui il est. Et regardez ce qu'il est dit dans Genèse au premier chapitre, c'est la première page de la Bible, et au verset 11. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. » C'est la première fois que Dieu crée quelque chose de vivant à ce moment-là, dans notre univers connu. Auparavant, ce qu'il avait créé, c'était la lumière, l'eau, l'étendue du ciel, la terre, et là maintenant, il crée quelque chose de vivant. Cette chose vivante, nous le voyons, c'est la verdure, l'herbe, les arbres fruitiers. Bien remarqué qu'il est dit, chacun portant de la semence. Voilà, c'est dit deux fois d'ailleurs, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà réalisé, mais tout ce qui est vivant aujourd'hui sur la terre n'est plus une création de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a créé au moment de la création et il a mis dans les choses vivantes qu'il a créées une semence pour que cette chose-là se reproduise d'elle-même. C'est magnifique. Pour que cette chose-là se reproduise d'elle-même. Vous êtes tous le fruit d'une semence. Il y a d'ailleurs deux mots grecs qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour parler des semences ou des semailles, etc. Donc vous avez les deux mots qui sont d'ailleurs devenus des mots en français qui sont spores et sperme. Et ce sont donc en partie les semences végétales, je dirais, et de l'autre partie les semences animales, vous pourrez dire. Mais chacun de nous, nous sommes issus d'une semence. Et chacun de nous, d'ailleurs, si nous voulons nous reproduire, il va falloir semer. Hein, on dit aux petits-enfants, on veut parler de la petite graine, mais c'est tout à fait ça. 1 Pierre 1:23 nous dit d'ailleurs, « Vous avez été régénérés par une semence incorruptible par la parole de Dieu. » Ça aussi, c'est merveilleux. Un autre point important à remarquer, c'est que lorsqu'une semence est semée en terre et qu'elle se met à pousser, elle ne fait pas d'effort pour changer. Vous remarquez, pour ceux qui ont des enfants, et j'en fais partie, les enfants viennent avec une certaine taille et grandissent. J'ai aujourd'hui une fille qui a un an, à peine un an, et puis un garçon qui va avoir 18. Ils n'ont pas du tout le même gabarit. Hein. Mais mon aîné n'a fait aucun effort de lui-même pour parvenir à la taille qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, il n'aurait même pas pu le faire. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Au mieux, ce qu'il aurait pu faire, c'était améliorer ou réduire ce pour quoi la semence était faite. Il aurait pu se muscler un peu plus, mais il n'aurait pas créé des muscles. Il aurait simplement développé quelque chose qui existe déjà. A contrario, il aurait très bien pu rester 10 ans allongé sur un lit et ne pas avoir de muscles. Ou tellement faible. Vous voyez ce que je veux dire? Cela ne fait pas enlever ou apparaître les muscles. Tout cela ne fait que développer ou réduire quelque chose qui existe déjà, dont la puissance se situe dans la semence de départ. Et en tant que chrétiens, nous avons tous le désir, à un moment donné ou à un autre, de changer. Tous, on s'est rendu compte, à un moment donné ou à un autre, on s'est dit, comme Paul, à un moment donné, qui parle dans Romains 7 vis-à-vis de la loi, il s'est dit, mais j'aimerais faire le bien et j'y arrive pas. j'aimerais faire mieux et je ne sais pas trop comment faire, j'y arrive pas. Et c'est difficile de changer. Combien de fois, moi ça m'est arrivé plein de fois, j'imagine vous aussi, combien de fois ça s'est passé de dire, allez, cette année, maintenant je vais me tenir bien, je me mets plus en colère contre telle personne, là maintenant je vais bien réagir dans tel cas. Et c'est difficile, ça ne marche pas toujours, vous avez remarqué ? En fait, il y a des difficultés au changement. Il y a des difficultés au changement. Pour nous-mêmes, il est difficile d'arriver à changer. Mais pourquoi est-ce qu'en fait c'est difficile d'arriver à changer ? C'est difficile parce qu'on essaye de changer de nous-mêmes. En fait, ce que je veux dire par là, si un pommier produit des pommes, il n'a aucun effort à faire. Si maintenant le pommier veut produire des oranges, il peut faire beaucoup d'efforts, il n'y arrivera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut vouloir changer de soi-même, mais en réalité, ce n'est pas nous-mêmes qui décidons du changement, c'est la semence qui décide du changement. C'est-à-dire qu'une semence de pomme, de pommier, va donner des pommes. Une semence de poirier va donner des poires. C'est la semence elle-même qui décide du changement. Le changement vient lorsque nous allons semer en nous la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est faite pour porter du fruit. Et c'est l'objectif de ce collège. L'objectif de ce collège, c'est de semer en chacun de nos cœurs la parole de Dieu, au point que nous n'ayons pas besoin de nous changer nous-mêmes ou même d'essayer de changer, mais nous allons constater un changement opéré par la parole elle-même. Un changement sans effort, si ce n'est celui de permettre à cette parole de germer dans nos cœurs. C'est comme ça que les choses fonctionnent d'un point de vue spirituel. C'est comme ça qu'elles fonctionnent d'ailleurs aussi naturellement. C'est pour ça que Jésus a voulu nous l'expliquer de cette manière-là. Et c'est même, je crois, pour cette raison que Dieu lui-même a créé les arbres et les humains et les animaux de cette manière-là. Pour nous enseigner là-dessus, pour nous faire comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que, si vous regardez par exemple Josué au premier chapitre, verset 8, c'est Dieu qui l'a fortifié Josué au moment où Josué doit remplacer Moïse, ce qui n'est pas une petite tâche. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc si je paraphrase un peu, qu'est-ce que ça veut dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ? Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit « ne s'éloigne pas de tes yeux » ou de ta bouche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi, tu vas parler. Tu vas toi-même dire cette loi. Tu vas toi-même utiliser la parole. Et quand tu vas utiliser la parole et que tu vas la méditer jour et nuit, alors tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Vous remarquez qu'en fait, ça n'a rien à voir avec une logique qu'on pourrait avoir qui dirait « obéis à Dieu et tu seras béni », dans un sens un peu légaliste du terme. C'est pas du tout ça, c'est « rentre dans une loi spirituelle ». Si tu veux obtenir des pommes, plante un pommier. C'est exactement ce que Dieu est en train de dire à Josué. Il est en train de dire, tu as besoin de réussir dans tes entreprises. Tu as besoin que je sois avec toi. Parce que comment est-ce que Josué aurait pu réussir sans Dieu ? C'est impossible. C'est impossible. Quand on voit d'ailleurs les combats qu'il a eus et les victoires, hein, Josué, c'est quand même celui qui a commandé cette armée, qui a tourné autour de Jéricho, dont les murailles se sont effondrées, simplement lorsque les gens ont sonné de la trompette et ont tourné autour de la ville. Si ça, c'est pas Dieu, je ne sais pas ce qu'il faut. Eh bien, Dieu est en train de dire à Josué, tu vas utiliser ma parole, tu vas la planter dans ton cœur, et le résultat va venir. Le résultat, c'est que je vais pouvoir agir dans ta vie, je vais pouvoir faire en sorte que ce que je veux pour toi s'accomplisse. Et vous savez quoi, ce que Dieu veut pour nous ? Qu'on réussisse dans toutes nos entreprises. C'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Mais pour cela, il lui dit, tu vas la méditer jour et nuit. Et la question qu'on devrait se poser quand on fait un constat peut-être dans notre vie, en disant, voilà, là, où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? Quel résultat j'ai aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme fruit dans mon jardin, par exemple ? Et la question à se poser, c'est, qu'est-ce que j'ai planté pour obtenir ? Imaginez qu'un jardinier aille dans son verger, par exemple, et qu'il dise, tiens, j'aimerais bien récupérer des oranges, mais qu'il n'a planté aucun oranger. Vous diriez, il est fou, ou alors il faut qu'il change de métier. Il n'est pas un bon jardinier. Le résultat dépend de ce que l'on a planté. Pour obtenir des résultats qui viennent de Dieu, il faut planter une semence qui vient de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et la problématique pour chacun de nous, malheureusement, et en tout cas dans le monde chrétien de manière générale, c'est que on sait grosso modo ces choses, mais qu'on ne les prend pas spécialement au sérieux. Regardez par exemple ce qu'il est écrit dans le psaume 107 au verset 20. Il est dit, il a envoyé sa parole, et qu'est-ce qu'elle a fait cette parole ? Il l'a guéri. Il a envoyé sa parole et il l'a guéri. Bien, il est important de pouvoir, pour nous-mêmes, semer de telles paroles dans nos cœurs. On ne peut pas s'attendre à récolter un fruit sans semer la semence de ce fruit. Et des fois, on va espérer des changements, et ces changements n'arrivent pas parce qu'on va vivre en fait de manière charnelle. Alors, juste une parenthèse, charnel ne veut pas dire dans le péché. Charnel veut simplement dire vivre en se basant sur ce qu'on voit, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on sent, sur ce qu'on goûte, sur les cinq sens en réalité. Sur le monde physique. On va se baser sur le monde physique plutôt que sur le monde spirituel. Être un homme spirituel, c'est un homme qui se base sur les réalités spirituelles. Être un homme charnel, c'est un homme qui se base sur les réalités physiques. Eh bien, il est important pour nous de ne pas vivre de manière charnelle, donc en s'appuyant sur ce que nos yeux nous renvoient comme image, sur ce que nos oreilles nous renvoient comme son, mais de nous appuyer sur ce que nos yeux spirituels voient, sur ce que nos oreilles spirituelles entendent. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus, plusieurs fois, dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Parce qu'il s'agissait d'entendre avec les oreilles spirituelles, pas d'entendre avec les oreilles humaines, ce que Jésus a à dire. Je vous propose de lire le Proverbe 4, à partir du verset 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. » Dieu va parler, mais il faut que nous entendions sa parole. « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. » Quoi donc ? Mes discours, ma parole. « Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » C'est-à-dire, quand tu vas voir quelque chose, regarde avec les yeux de ma parole. Regarde en fonction de ce que moi j'ai dit et non pas en fonction de ce que tes yeux humains te renvoient comme image. Garde-les dans le fond de ton cœur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Et c'est là que le monde spirituel a une répercussion sur le monde physique. En fait, quand on commence à méditer sur les choses spirituelles, le physique suit. Mais lorsqu'on médite sur le monde physique, le spirituel ne suit pas. Il y a un ordre que Dieu a établi. Il dit, garde ma parole au fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui trouvent les discours que je donne. C'est la vie. Si on se pose encore des questions, voilà la volonté de Dieu pour chacun de nous. La vie pour toi. Et même la vie pour ton corps. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors là, je vais déjà aller un petit peu en avant sur la leçon suivante. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Si vous vous rappelez de la parabole du semeur, il est dit que les terrains dans lesquels on sème représentent les cœurs. Et c'est pour ça que dans les proverbes, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». C'est-à-dire, fais attention à ton cœur, fais attention à ce qui va être semé dans ton cœur. Vous savez que si vous êtes... D'ailleurs, remarquez que Jésus lui-même a utilisé cette parabole en disant « Il y avait un homme qui avait un champ, qui avait semé du blé, son ennemi est venu, il a semé de l'ivraie. » Cet homme n'a pas gardé son champ. Parce qu'il n'a pas gardé son champ, il a poussé des mauvaises choses. Parce qu'il avait un ennemi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Entre parenthèses, si tu le gardes. De ton cœur viennent les sources de la vie. Tu vas pouvoir de ton cœur tirer la vie de Dieu si tu veilles à ce qui est planté dans ton cœur. Si dans ton cœur tu laisses planter du mensonge, si tu laisses planter de la rancune, si tu laisses planter des mauvaises pensées, devine ce qui pousse. De la rancune, de l'amertume, des mauvaises pensées. Tu plantes du mensonge, il va sortir du mensonge. Tu plantes une pomme de terre, il sort une pomme de terre. C'est vrai naturellement, c'est vrai spirituellement. Ce que tu plantes pousse. On revient sur Marc. On n'a fait qu'un verset pour l'instant. On était à Marc 4, 26. On va prendre Marc 4, 27. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Donc, il, c'est cet homme. Cet homme qui représente chacun de nous. Alors là, il y a beaucoup de choses intéressantes. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. il est important de savoir que il n'est pas nécessaire de savoir comment les choses fonctionnent, pour qu'elles fonctionnent. Est-ce que vous saviez par exemple que si on mettait, supposez qu'on prenne tous les scientifiques du monde entier, qu'on dégage tous les crédits possibles, et qu'on dise maintenant on va mettre toute la sagesse humaine du monde sur un seul projet, l'homme va créer une graine. Eh bien, le résultat serait qu'on aurait quelque chose qui va ressembler à une graine, qui aura peut-être la même taille, le même poids, la même couleur, le même goût, mais si c'est créé par l'homme, ça ne germera pas. Parce qu'en réalité, personne dans l'univers ne sait comment fonctionne une graine. Comment il est possible que dans si petit peu de matière puisse germer un chêne qui pèse des tonnes? Comment il est possible qu'il y ait une telle puissance qu'en mettant une graine entre une fente du rocher, le rocher explose? Il y a une puissance dans la graine, mais notre but n'est pas de comprendre cette puissance. C'est ce que Jésus est en train de dire. Sans qu'il sache comment, ça germe et ça croît. Ça, c'est aussi pour nous aider. Ce qui est à retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne, il faut juste savoir que ça fonctionne. Si tu sais que ça fonctionne, tu vas planter une semence. Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce que aujourd'hui, on a l'impression que pour avoir des tomates, il faut aller à Super U. Mais en réalité, pour avoir des tomates, il faut semer des tomates. Pour obtenir un résultat, il faut semer. Et c'est cette chose qui est importante à retenir. On n'a pas besoin de savoir comment précisément ça marche, on a besoin de savoir que ça marche. Et pour moi, si on reprend cette analogie, ce que j'ai besoin, moi, c'est d'être une bonne terre. C'est la seule chose qui suffit pour qu'une graine puisse germer. Et puis, il y a aussi autre chose, il est dit qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. Hein, ce qui nous montre qu'il n'y a pas d'effort à faire. Hein, celui qui a semé, le semeur, lorsqu'il dort, il ne fait pas beaucoup d'efforts pour s'occuper de son jardin. D'ailleurs, il n'a rien à faire, si ce n'est peut-être mettre un épouvantail dans son jardin, à la rigueur. Mais il n'a rien à faire. Une fois que c'est semé, il n'a plus la main là-dessus. Sans qu'il sache comment, jour et nuit, qu'il veille ou qu'il dorme, ça va pousser. Et il y a une loi que le Seigneur nous dit, c'est la loi de la semence, la loi de l'attente et la loi de la récolte. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on sème, eh bien après il faut attendre. Et ensuite on récolte. L'attente peut être plus ou moins longue. D'ailleurs, vous le voyez dans les espèces végétales et animales, la gestation d'un éléphant, c'est pas la même que la gestation d'un lapin, par exemple. C'est pas la même semence non plus. Chaque semence va avoir son temps d'attente. Et chaque semence va porter son propre fruit. Et tout le travail de ce collège, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez et nous allons planter dans notre cœur la parole de Dieu au fur et à mesure. Et sans qu'on sache comment, elle va germer, elle va croître. Et ensuite, la moisson va venir. C'est quelque chose qui va fonctionner de soi-même, automatiquement. Qu'on veille ou qu'on dorme, c'est une loi spirituelle voulue par Dieu. Et ça, c'est important de savoir. Mais là-dessus, il y a semence, puis il y a attente. Et des fois, c'est attente. Ça peut durer. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, c'est « Tiens, j'ai envie de ça, je l'ai tout de suite. Même si je n'ai pas l'argent, même si tout est contraire, je le veux, je l'ai, et tout de suite. » Mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a cette loi de semence et d'attente, puis de moisson. Et là, il y a deux manières de voir les choses. On peut se dire, oui, mais moi, j'en ai un peu marre d'attendre. J'ai envie de résultats rapides. Et ce que je voudrais dire, c'est que ça, c'est la première manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, c'est que le temps peut devenir aussi notre ami. Le temps peut devenir notre ami. C'est-à-dire que une fois que la chose est semée, une fois qu'elle commence à prendre racine, eh bien, plus le temps passe et moins tu as des racines. Si vous prenez un petit arbre, s'il est petit comme ça, vous pouvez le déraciner. Vous n'avez pas attendu longtemps, vous pouvez le déraciner. Attendez quelques années, ce sera beaucoup plus dur à le déraciner. Mmh. Attendez encore plus, il vous faudra un tractopelle peut-être pour le faire. Et c'est vrai dans la vie chrétienne aussi. C'est en ça que le temps va devenir notre ami. C'est-à-dire que plus on va semer, moins on sera destructible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps où on laisse la semence de Dieu germer en nous, au fur et à mesure où nous allons laisser les racines plonger dans nos cœurs, eh bien, au plus ça va passer, plus elles seront inarrachables. Inarrachables. Et ça c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. L'autre point à souligner également, c'est qu'il est parlé de moisson. Lorsque le temps est venu, on va moissonner. Est-ce que vous savez qu'il est important de ne pas semer la veille de la moisson, parce que c'est trop tard? Eh bien, de la même manière dans nos vies, c'est la même chose. Nous devons semer avant que les choses difficiles arrivent. Il faut semer la guérison de Dieu dans nos cœurs avant la maladie. Non pas que, comprenez bien ce que je veux dire, non pas que ce serait rédhibitoire, mais il est beaucoup plus difficile d'obtenir une moisson rapide quand on est dans les difficultés, quand on n'a jamais rien semé, que d'obtenir une réponse et un résultat lorsqu'on a déjà semé. J'avais lu à un moment donné un article d'une personne qui parlait justement de la guérison, et il avait donné un exemple qui m'avait un petit peu choqué, mais dans le bon sens du terme. Il disait, si lorsque vous priez pour les malades, vous avez besoin qu'il y ait autour de vous une ambiance spéciale, une onction spéciale, si vous avez besoin d'une demi-heure de louange avant, si vraiment il faut que vous soyez mis en condition pour prier pour les malades, comment vous allez faire si vous arrivez devant votre piscine et qu'il y a votre enfant qui flotte? Là, c'est pas le moment d'aller jouer de la guitare. C'est le moment d'avoir semé avant. Ou alors d'aller voir quelqu'un qui a semé. C'est une forme de semence aussi. C'est un exemple. Hein. Mais moi, ça m'a parlé. Moi, ça m'a parlé sur l'importance de mettre les choses en ordre. Si je veux bâtir ma maison, ce n'est pas lorsqu'elle est finie que je vais réfléchir à « Ah oui, au fait, ici, il y a beaucoup de mistral, j'aurais peut-être dû renforcer un petit peu. » C'est un peu tard. Alors, verset 28. « La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. » Quand il est dit « la terre produit d'elle-même », la terre, c'est qui ici?
C'est nous.
C'est vous. C'est nous. Nos cœurs ont été faits par Dieu pour produire. Nos cœurs sont une terre. Nous avons été créés par Dieu pour que nos cœurs produisent quelque chose. Vous avez remarqué que la terre, de manière générale, va produire toujours. Vous laissez un champ, il va finir par pousser quelque chose. Ce qui a été semé, d'ailleurs, bien souvent, ce sont des mauvaises herbes si vous le laissez et que vous ne l'entretenez pas. Mais ça va forcément pousser. Notre cœur, c'est la même chose. La terre produit d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est faite pour produire. Et là, c'est vraiment important aussi de comprendre ça. Notre cœur est fait pour produire ce qui est semé. Ce qui y est semé. Le mot grec pour elle-même, je l'ai trouvé très beau. Le mot grec pour elle-même, vous le connaissez, c'est le mot « automatos », qui a donné « automatique ». La traduction littérale, c'est « la terre produit automatiquement ». De manière automatique. J'ai pris la définition de Larousse parce que je l'ai trouvée très intéressante. Définition de Larousse pour « automatique ». Qui fonctionne par des moyens mécaniques sans intervention humaine. Tiens, sans intervention humaine. Se dit d'un geste qui s'exécute sans la participation de la volonté machinale, qui s'accomplit en vertu de règles fixées d'avance ou d'un enchaînement inéluctable. Ça veut dire que tu ne peux rien faire contre. Ton cœur va produire. Ton cœur va produire. Ton cœur va produire ce que tu y sèmes. Vous avez remarqué que souvent dans les maisons de retraite, il y a des gens qui sont très amers. Ils y sortent simplement ce qui a été semé tout au long de la vie. Peut-être qu'avant, ces gens-là étaient suffisamment solides pour se retenir, pour ne pas le montrer, pour le cacher. On peut essayer de cacher les choses, mais il y a un moment où on ne peut plus cacher. Ça se voit. Ce qui a été semé se voit. Et c'est important pour nous, et vous avez, et nous avons fait le bon choix de vouloir semer la parole vivante et permanente de notre Dieu dans notre cœur. Parce qu'elle va porter inéluctablement du fruit. La parole de Dieu porte inéluctablement du fruit. C'est ce que je vous disais. En semant la parole dans nos cœurs, vous ne pourrez pas vous empêcher de changer et d'être à l'image de Christ. Il est impossible de faire à l'encontre de cela. Parce que c'est automatique. La terre produit de manière automatique. Votre cœur produit de manière automatique. À nous de méditer ce qui doit être médité. Ne méditons pas la peur, par exemple. Si nous méditons la peur, nous récolterons la peur. Mais si nous méditons la joie ou l'amour,
nous récolterons la joie et l'amour.
Et ça, c'est quelque chose d'important. En parlant de... Petite parenthèse intéressante, en parlant de puissance dans la semence.
Et une fois de plus, Dieu a créé les choses d'une manière physique pour nous faire comprendre les choses spirituelles.
Mais regardez deux petites remarques par rapport aux semences que j'ai trouvées. Est-ce que vous connaissez le palais de Massada, le lieu de Massada en Israël où le roi Hérode a habité, un palais extraordinaire, où il s'est passé des choses atroces? Eh bien, ce palais a été conquis et il y avait des jarres qui ont été prises, et en particulier des jarres qui contenaient des semences. Et en Israël, des gens ont pris ces semences-là, qui datent donc de 2000 ans, et bien les graines ont germé, 2000 ans après. La puissance que Dieu a mise dans ces graines est restée 2000 ans après. Ça a donné un arbre, un palmier de Judée d'ailleurs. C'était des graines de palmier de Judée. 2000 ans après. Et j'ai vu également, alors là je ne donne pas de caution sur la datation, mais c'est ce que j'ai lu, des scientifiques ont trouvé aussi en Sibérie, dans le permafrost, à moins 38 mètres de profondeur, dans des, comment on appelle ça, des petits terriers d'écureuils, des petits nids d'écureuils, des graines. Dans le permafrost, moins 38 mètres. Ils ont estimé ça, alors c'est du carbone 14, ça vaut ce que ça vaut. Eux, ils disent que c'est 31 800 ans, à plus ou moins 300 ans près. Bon, disons beaucoup d'années, plusieurs milliers d'années. Eh bien, ces graines également ont germé. Pourquoi ? Parce que Dieu a mis une puissance, et cette puissance, on ne sait pas comment, mais elle fonctionne. Et nous devons croire que si c'est vrai dans le domaine physique, c'est encore plus vrai dans le domaine spirituel. La parole de Dieu, qui est une semence, est encore infiniment plus puissante qu'une graine de ce monde. Elle est incorruptible, celle-là, la parole de Dieu. Une graine de ce monde, elle peut avoir une maladie, elle peut pousser de travers, elle peut même avorter. La parole de Dieu, il dit qu'elle est incorruptible. Ce pourquoi elle est prévue, c'est ce qui pousse. Pour ça qu'il est dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet, ce pourquoi elle est prévue. Ça, c'est magnifique. Et puis, il y a un processus de croissance. On le voit, c'est écrit, il est dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et là aussi, je n'invente rien, et dans sa parabole, le Seigneur n'a rien dit de particulièrement extraordinaire. Il a simplement constaté comment ça se passe. Comment ça se passe quand une plante pousse? Ça commence d'abord par une herbe, par quelque chose d'un peu petit. Et puis il y a un épi qui arrive. Et ensuite, il y a le grain qui est tout formé. Et entre parenthèses, on sait que si le grain ensuite tombe en terre et meurt, il porte encore plus de fruits. Bon, ça c'est une autre c'est une autre histoire. Mais dans ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que il y a réellement un processus de croissance. Et il ne faut pas négliger ces choses-là. Il ne faut pas négliger ces choses parce qu'elles sont importantes. Il n'est pas possible que ce soit dans le monde physique ou même dans le monde spirituel de passer de 0 à 100 km/h instantanément. Il y a une croissance spirituelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit dans Romains 12, verset 2, il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Vous devez planter en vous cette parole de Dieu qui va vous transformer, qui va vous permettre de voir les choses non plus selon la perspective du monde, selon votre expérience, selon ce qu'ont dit les parents, selon ce qu'ont dit les professeurs, selon ce qu'ont dit telle ou telle personne, mais selon ce que Dieu dit. Si vous vous laissez transformer par cette parole de Dieu qui est plantée en vous, si vous vous laissez renouveler, si vous laissez renouveler votre intelligence, vous serez transformé. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, et c'est ce qu'on veut. Et ce qu'on va avoir, et ce qu'on a déjà dans bien des domaines. Donc l'herbe, l'épi, puis le grain formé. Je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus longtemps, mais il faut avoir ça en tête. Parfois on peut prier Dieu, et on peut dire, j'aimerais voir telle chose. J'aimerais que dans ma vie se passe telle ou telle chose. Mais il y a des étapes. Avant d'avoir le grain, tout formé dans l'épi, il faut l'épi. Avant l'épi, il faut l'herbe.
avant l'herbe, il faut avoir semé. Et c'est important, c'est vraiment important. On continue, verset 29. Ça vous va? Vous m'arrêtez, hein, s'il y a besoin d'une pause. Herbe, épi et grain. Le grain étant le fruit. Marc 4, 29 maintenant. Dès que le fruit est mûr. Ah, voilà la bonne nouvelle. On va y arriver. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Quand le fruit est mûr, alors quelque chose s'accomplit. Alors on va pouvoir moissonner. Eh bien, il est dit, dès que le fruit est mûr, c'est-à-dire pas avant. Pour ceux qui ont fait un petit peu de jardinage, si vous avez planté votre graine de tomate, que vous revenez le lendemain, il n'y a pas de changement visible le lendemain. Et si jamais vous êtes allé déterrer un petit peu la terre pour voir, ben, la graine n'a pas changé. Hop, je remets, je viendrai demain. Et le lendemain, je viens, je déterre encore, ben, ça n'a pas changé. Vous savez que si vous continuez chaque jour à faire ça, ça ne poussera jamais. Tu ne peux pas déterrer et renterrer ta graine sans arrêt. Il faut, à un moment donné, laisser le processus que Dieu a voulu agir. Et pourquoi je dis ça? Parce que il est important pour nous de veiller sur les semences que l'on va mettre dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire déterrer ces semences? Et par exemple, ça va être se réunir ici au collège, entendre une parole de Dieu sur ce qu'on a lu tout à l'heure, qui dira « Bien, écoute mes paroles et c'est la santé pour ton corps. » Là, je viens de planter quelque chose. Et puis, je rencontre mon voisin qui me dit « Ouh, t'as une sale tête, tu ferais bien d'aller voir le docteur. » Eh bien, si tu commences à croire cette parole, tu es en train de déterrer la graine précédente. Et si tu fais ça avec la parole de Dieu, elle ne poussera pas. Elle a quand même la puissance, ça changerait. Elle est là, c'est pas que l'onction est partie. C'est que le fonctionnement que Dieu a voulu n'est pas respecté. Et c'est en ça que c'est important pour nous. C'est important pour nous. C'est pour ça qu'il était dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur, ne laisse pas n'importe qui déverser n'importe quoi dans ton cœur. Et vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui vont payer une redevance télé, par exemple, ou n'importe quoi, ou un ticket de cinéma, ou ce que vous voulez. Ça ne gêne pas qu'on y aille, mais ce que je veux dire, c'est payer pour recevoir des choses contraires à la parole de Dieu. Même des chrétiens vont des fois écouter des choses, payer pour faire des choses qui vont aller, en quelque sorte, déterrer ce qu'ils ont semé. Et après, on se demande pourquoi rien ne fonctionne. Et c'est simple. Il y a un travail qui est notre travail à nous, c'est de conserver ces choses-là. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais dans ces cas-là? Parce que je suis bombardé de partout. C'est vrai que nous sommes tous bombardés de partout d'incrédulité et de plein de choses. Mais toute arme forgée contre toi sera brisée et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Eh bien, ce principe, c'est celui-ci. Lorsque quelque chose s'élève contre toi, tu dois prendre position. Tu dois dire non, je ne laisse pas cette semence être plantée en moi. Combien de fois ça nous arrive, j'espère, en tout cas ça m'arrive, d'entendre certaines choses et de dire non, je ne suis pas d'accord. Même si c'est la radio, hein. Peu importe. Je ne veux pas laisser en moi semer des paroles d'incrédulité. Je ne veux pas laisser semer en moi des paroles qui vont à l'encontre de cette semence de la parole. Et la moisson, il est dit, quand le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. La moisson, elle se produit lorsqu'on utilise les millions et les millions de semences que Dieu a déposées autour de nous. Et le principe spirituel, c'est de dire, on répond à un besoin par une graine, par une semence. J'ai besoin de quelque chose en particulier, je veux planter quelque chose de la parole de Dieu en moi. Que ce soit sur la guérison, eh bien, je vais planter des versets de la guérison dans mon cœur, je veux méditer dessus. Je ne veux pas m'appuyer sur d'autres choses à côté qui vont me dire l'inverse. C'est simplement comme ça que ça fonctionne. Si je dis effectivement, bon, Seigneur, voilà, tu as 15 jours pour tout changer en moi, si dans les 15 jours je ne suis pas changé, je plaque tout, c'est une mauvaise décision, c'est une mauvaise parole. Il ne faut pas dire ça. Il faut laisser le temps à cette semence de rentrer en nous. D'autant plus lorsqu'on a passé des années à semer des mauvaises choses. D'autant plus. Mais ça, c'est très encourageant. Ce qui est très encourageant, c'est de se dire, ce que je vais semer va pousser. C'est ça qui est encourageant. Il y a eu des choses qui ont été semées avant. Vous avez peut-être eu des gens qui vous ont dit des choses terribles sur vous. Et vous l'avez pris en pleine poire, en plein cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, en plein cœur. Et des fois, on dit, ah, ça m'a touché au cœur. C'est pas pour rien. Hein. Parce qu'il y a eu un poison qui a été planté en disant, tu es minable, tu sauras jamais faire ça, tu vaux rien. Qui sont des paroles mauvaises, qui ont été acceptées par nos cœurs et qui font pousser cette souffrance. Eh bien, notre part, c'est de reconnaître que ces choses-là étaient mauvaises, de reconnaître qu'elles n'ont rien à faire dans notre cœur, et ensuite de semer ce que le Seigneur dit de nous, « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » De dire, « Christ n'a pas honte de les appeler ses frères. Il est fier de vous, il est fier de nous, le Seigneur. » De planter en nous des paroles qui nous font du bien, et c'est ça qui nous restaure. C'est ça qui nous restaure. Alors, avant de faire une petite pause, on va simplement lire. On va lire à partir du, toujours dans Marc 4, de verset 35, jusqu'à la fin du verset. Donc, je vais vous le lire. « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord, passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Mais qu'est-ce que tu fiches ?» Et ça, c'est moi qui interprète. Mais en langage plus biblique, c'est « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Bon, il faut mettre l'intonation parce que quand tu péris dans la barque, tu ne mets pas trop les formes. Hein. C'est « Qu'est-ce que tu fiches dans cette barque à dormir ? Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir ? Tu vas mourir noyé avec nous ? On est en train d'écoper ? Tu prends une place sans écoper ? Tu bouge-toi !» Voilà ce que les disciples ont dit à Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Vous avez eu bien raison, l'orage était terrible. » Non, il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Comment c'est possible que vous n'ayez pas de la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Là, c'était plus frayeur de l'orage, hein. C'était frayeur de Jésus. grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Il y a quelque chose d'intéressant, on est toujours dans le même chapitre, et il est dit, verset 35, « Ce même jour. » Ce même jour. Et là, il y a quelque chose à comprendre. Ce même jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce même jour ? Eh bien, on l'a lu. Jésus venait de donner une parabole. Et si vous comparez entre Marc 4 et Matthieu 13, vous verrez qu'en réalité, Jésus a enseigné au moins 10 paraboles ce même jour. Au moins 10 paraboles. Et la plupart parlent de la parole, comme celle-ci. Je les ai notées. Ça peut vous intéresser. Celle qui parle de la parole, c'est le semeur et les terrains. C'est livrer le bon grain, le grain de CNV, le levain, la croissance de la semence, par exemple. Il a aussi parlé donc du trésor caché, de la perle de grand prix, du filet, du maître de maison et de la lampe sur le chandelier. Mais voilà ce qui se passe en fait. Jésus a prêché aux disciples et à la foule, mais en particulier aux disciples. Il a enseigné sur l'importance de la parole comme je l'ai fait depuis tout à l'heure pour chacun de nous. Et puis il a donné lui-même une parole. Passons à l'autre bord. Voilà la parole que Jésus a donnée. Jésus n'a pas dit « Allons au milieu du lac et coulons ». Il n'a pas dit « Allons tous mourir ensemble ». Il a dit « Passons à l'autre bord ». Et à mon sens, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a... Si Jésus a repris ses disciples de la manière dont on le voit, c'est parce que selon lui, ils auraient dû comprendre la leçon qu'il leur avait donnée toute cette journée-là. Je vous ai parlé sur l'importance de la parole. Je vous ai dit comment ça fonctionne. Nous savons d'ailleurs, en lisant les évangiles qui en parlent, qu'il a même expliqué en détail, quand les disciples ne comprenaient pas exactement les paraboles. Il a expliqué en détail. On pourrait presque dire que c'était comme un contrôle surprise qui fait passer. Hein. J'ai bien enseigné, maintenant, on va passer de l'autre bord du lac. On va voir ce qui va se passer. Remarquez que Jésus, lui, dormait. Et les disciples lui reprochent quoi ? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pas ? Tu devrais t'inquiéter. Et lui dormait. Pourquoi est-ce qu'il dormait ? Parce qu'il connaissait la parole la puissance de la parole qu'il avait donnée. Passons de l'autre bord. Pour Jésus, il n'y avait pas de doute. Si je rentre dans cette barque et si je dis passons de l'autre bord, on passera de l'autre bord. Et je peux dormir, qu'il y ait un orage ou pas d'orage. Les disciples, eux, n'ont pas compris à ce moment-là la puissance de la parole. Et vont commencer à s'inquiéter parce qu'ils vont se baser sur ce qu'ils voient, se baser sur ce qu'ils entendent, et on ne peut pas les blâmer là-dessus, on n'aurait pas forcément fait mieux. Mais en tout cas, il est dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Pour qu'on apprenne à leur dépens, pour que nous, on n'ait pas besoin de passer dans une barque en train de se noyer. Eux l'ont fait pour nous, pour qu'on puisse comprendre aussi la leçon. Et qu'on puisse se dire, oui, quand Christ a dit quelque chose, quand Dieu a dit quelque chose, cette chose, c'est une semence qui va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Et il leur dit, pourquoi avez-vous eu si peur? C'est-à-dire, vous n'aviez aucune raison d'avoir peur. Les uns s'inquiétaient, et lui dit non, vous n'auriez pas dû avoir peur. Ça nous rappelle effectivement ce que dit Philippiens 4, où Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence comblera vos cœurs, tiens, tiens, et vos pensées. Vous serez comblés dans vos cœurs et vos pensées si vous recevez cette parole de Dieu, si vous savez que lorsque Dieu a dit quelque chose, vous pouvez vous appuyer sur ce qu'il a dit. Et il n'y a plus besoin de s'inquiéter. » Bien sûr, on communique avec lui, bien sûr, on fait part des problèmes, mais pas dans un état d'optique d'apprendre à Dieu ce qui se passe. Tu vois dans quelle situation je suis? C'est exactement ce que les disciples ont dit. Tu vois pas qu'on est en train de périr? Ben si, mais c'était pas une raison pour s'inquiéter. C'est assez extraordinaire, hein? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Qu'est-ce que nous dit Romains 10, 17? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Jésus leur dit, vous devriez avoir la foi. Vous avez entendu la parole de Dieu, la parole produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que notre cœur est fait pour produire. Alors malheureusement, ce verset marche à double sens. Ce verset, en fait, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il peut très bien être, la crainte vient de ce que j'entends, si ce que j'entends ne vient pas de la parole de Dieu. Et là, il faut être vigilant, il faut bien écouter ce que le Seigneur nous dit. Voilà, j'en ai fini pour cette leçon.